Bienvenue à tous. Très heureux de se retrouver, n'est-ce pas? Il est bon d'être dans la présence de Dieu et je pense que nos cœurs sont aussi disponibles, disposés maintenant aussi à ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais ce matin vous entretenir autour de la pensée biblique sur la vigne de l'Éternel. Donc un texte qui en parle dans l'Ancien Testament, il y en a même deux et un intermédiaire. Donc en fait, je voudrais vous proposer tout cela, voyant ces trois textes clés qui en parlent, et puis en même temps qui sera pour nous des étapes, trois étapes importantes, parce que nous pouvons en faire des déductions, une compréhension qui est la nôtre autour de la parole de Dieu. Amen. Et puis les textes d'Ésaïe sont toujours très très riches, hein, pour évoquer des éléments vraiment aussi de la vie chrétienne, et aussi par avance, hein, vous savez, les prophéties qui parlent de Jésus, qui annoncent son œuvre. Donc c'est pour nous toujours un bonheur aussi de pouvoir y venir et revenir à certaines choses. Nous avons besoin de comprendre qu'il y a avec Dieu une progression, toujours un désir de nous entraîner dans un chemin, dans une progression, une découverte, d'avancer dans une vie avec un parcours d'étapes. Tout se fait pas en un jour, hein, vous l'avez certainement bien saisi, mais nous comprenons que le Seigneur veut nous aider à comprendre et comprendre aussi ce qu'il dit dans sa parole pour l'illustrer, pour le recevoir et en vivre, oui, d'une manière aussi privilégiée, personnelle. Alors, on va regarder ce premier texte dont je vous parle, vous l'avez peut-être retrouvé, peut-être pour ceux des habitués de la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 5. Verset 1er, donc ça sera une première lecture. Il est question d'un cantique. En ce moment, on regarde un petit peu les cantiques, on étudie les prières. Il y a de personnalités, c'est toujours très très riche pour nous enseigner, nous rappeler l'œuvre de Dieu. Voilà ce qui est dit. Je chanterai à mon bien-aimé. Le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il enrhuma le sol, ôta les pierres et mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Et puis il espérait qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Alors voilà une compréhension, une explication. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Nous voyons qu'il y a là une attitude de la part de Dieu, c'est d'avoir entrepris tout ce qui était nécessaire pour le bien de son peuple, hein, parce que la vigne, on en déduit et on le comprend, c'est aussi bien le plan d'Israël, c'est aussi le terrain de Juda, c'est la maison de l'Éternel, hein, donc autant de synonymes qui nous rappellent bien son œuvre. Et ce que nous avons à comprendre, en fait, c'est que Dieu n'a pas lésiné ou n'a pas retenu sa volonté d'agir et de bien faire les choses. Ça, c'est sûr, hein. Mais nous devons en déduire et le comprendre que dans le texte, nous le saisissons bien que, en fait, cela évoque alors un cantique, mais certainement pas élogieux. Un cantique qui n'est pas flatteur, parce qu'on le voit bien que ça commence et ça semble être quelque chose d'édifiant. Et puis, il y a une marque de Dieu, il y a un constat de Dieu et qui en revient et qui le résume à dire que la vigne, elle est infructueuse. La vigne, elle est décevante. Voilà le constat. Le passage qui est appelé le cantique de la vigne Eh bien, Dieu y est dépeint comme le vigneron qui a entrepris voilà, de la chérir, de pouvoir la mettre en place, d'y faire une tour, de pouvoir y faire une cuve. En fait, tout était fait de manière à ce que vraiment tout puisse y croître dans la meilleure des terres, on pourrait dire, mais aussi dans le meilleur de tous les soins. Et il s'attendait à de bons résultats, il s'attendait à de bons fruits, et il s'attendait à de bons raisins, comme le droit à la justice. On le voit dans le texte, hein, comme il est expliqué, mais la vigne n'a produit que des fruits sauvages. On pourrait dire qu'ils n'étaient pas comestibles, immangeables, et l'injustice et les cris de détresse. Que manquait-il de la part de Dieu pour que cette vigne en arrive à ce point? Le vigneron, c'était Dieu lui-même. Les soins attentifs, Dieu décrit ce qu'il avait fait. Hein. Il a ôté les pierres, il a planté les meilleurs ceps, il a bâti cette tour. Et ça symbolise la parole de Dieu, la loi, les éléments qui étaient faits pour ordonner, pour structurer, pour donner des éléments d'aiguillage, de réussite, des critères pour faire les choses. Sa protection constante, il était là, il en prenait soin, il nous a dit. Et il envoie même des prophètes. Sa volonté, c'était que le peuple d'Israël, que tout soit dans cette alliance, dans cette résolution divine, pour que le plan de Dieu puisse réussir et porter du fruit. Il a mis tout en œuvre. On peut le comparer, on peut le constater, on peut voir, c'est vrai que tout était fait, et l'interrogation même de Dieu, est-ce que j'ai manqué de faire quelque chose ? Est-ce que j'ai failli en quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas? Et le texte est précis, hein, parce que si vous regardez un peu l'origine des mots, je me suis réjoui de revoir, il y a des mots qui parlent du droit, hein, ce que Dieu voulait, la justice, l'équité. Il a retrouvé à la place l'effusion de sang, l'oppression, là où il devait y avoir de bonnes attitudes. Malheureusement, la droiture ne s'est pas trouvée. Alors, ce n'est pas que la droiture de geste, mais c'est la droiture morale, en fait, hein, on peut dire. Il a entendu même des cris de détresse, la plainte des opprimés, du peuple qui en subissait les représailles et les mauvaises attitudes. Donc, il vivait les choses d'une manière très, très difficile. Hein, et nous devons dire, par rapport à la religion de l'époque, à leur manière d'être et de faire, il y avait un résultat qui était un résultat décevant aux yeux de Dieu. Vous vous rendez compte? Avec tout cela, on n'en arrive qu'à ça, ou alors à rien du tout en fait. On n'en arrive à rien du tout, et le verdict, oui c'est vrai que devant tout cela, verdict de Dieu, il est sans conteste dans le sens où Dieu dit à un moment donné, c'est pas possible. Et il dit, c'est plus possible. Il projette même d'abandonner sa vigne. Vous vous rendez compte? Là où il avait chéri, là où il avait entrepris de faire tout ce qui était en son pouvoir, il en vient même à dire, je vais ôter la haie, je vais ôter la barrière, elle sera broutée, elle sera dévastée, elle sera plus entretenue. Et cette vigne est abandonnée. C'est une prophétie du jugement. Et nous devons le comprendre avec Israël au jour d'aujourd'hui, dans le sens où Dieu a laissé, malheureusement, ce plan à tout ce qui se fait encore au jour d'aujourd'hui. Hein, et on réalise que tout cela, la cause de cela, c'est à cause du péché et de la désobéissance à la volonté de Dieu. Donc nous voyons que tous ces efforts-là, Dieu ne va pas les contenir pour trouver un terrain d'entente ou un terrain d'arrangement, ou on va dire un bon compromis, vous voyez, pour à la limite faire avec, hein, parce qu'on n'a pas trop le choix. Non. Le Seigneur montre et nous montre vraiment que ce qu'il est capable de faire, c'est d'arriver lui-même à la réduire en friche, ne soit plus taillée ni cultivée. Les ronces, les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Donc on peut se rendre compte ensemble que, eh bien, par rapport à la vigne infructueuse, à cette vigne décevante, c'est un constat, nous devons réaliser ensemble, frères et sœurs, que de toute évidence, la désinvolture, la désobéissance, la défaillance n'amèneront que le désordre, le désarroi, la détresse. Là, je vous ai fait 6 mots avec un D. Mais vous comprenez bien que, en fait, dans tout cela, ça nous amène aussi à avoir une compréhension que Dieu ne peut pas être en accord. Si même la vie semble nous sourire, si même nous pensons avoir une certaine réussite, même si nous pensons même avoir du fruit, parce qu'il y avait du fruit, mais il n'était pas comestible, il n'était pas mangeable, il n'était pas dans la volonté de Dieu, même avec des attitudes les plus religieuses qui soient, si Dieu n'est pas ou n'est plus présent, il y a la ruine et la catastrophe à la maison. Et c'est une réalité, le verdict est là, et sans conteste, le mal, le péché, la désinvolture, la désobéissance, autant de choses qui nous éloigneront toujours de Dieu. L'histoire se répète, l'histoire c'est notre histoire, c'est l'histoire d'Israël, mais c'est aussi une réalité bien présente. Et sans remise en question, c'est l'échec. Et c'est l'échec, lui il est sûr d'avoir réussi, hein. Mais qui oserait dire le contraire ? Qui oserait dire que, eh bien, de dire j'ai toujours fait ce qui est bien, puis je suis le meilleur au fond. On fait exprès, hein. Imaginez, j'aimerais vous amener à ce constat avec moi, imaginez le risque que Dieu en finisse par nous laisser faire. Ouais, tu fais ta vie comme tu veux, hein, y a pas de problème, il n'y a pas de contrainte avec Dieu, hein, mais qu'il se retire. Ou qui pourrait en venir à nous laisser à l'abandon. Vous vous rendez compte ? Il fait qu'en fait, il n'y aurait plus de valeur, il n'y aurait plus de retenue, il n'y aurait plus de cadre, il n'y aurait plus de volonté qui viendrait à nous rappeler à l'ordre ou nous ramener sur la bonne voie, qu'il y aurait des éléments où au fond, tu fais ce que tu veux. Alors, si Dieu nous laissait à faire ce qu'on veut, c'est sûr, bien à un moment donné, il se retire. Les choses sont laissées à l'abandon. Et c'est sûr que la chair et ses œuvres vont croître comme de mauvaises herbes. Hein. Nous réalisons que c'est un gros problème. Le problème était bien, je vous dis, bien que c'était de l'être humain, des religieux de l'époque, le problème n'était pas le manque de soins de la part de Dieu. Hein. Y a un texte que j'aurais pu mettre en parallèle pour ceux qui prennent des notes. Ça aurait été un texte comme Ésaïe 63. Il était question de louange de l'Éternel. Hein, versets 7 à 15, vous pourrez revoir ce texte. Dieu les a rachetés, son amour, sa miséricorde est constamment, les a soutenus, portés aux anciens jours, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit. Il est devenu leur ennemi, il a combattu pour eux, contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse et il les fit monter par la mer. Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint ? Hein, à méditer. Donc nous voyons la vigne infructueuse et décevante. Le problème n'est pas de Dieu, on l'a dit, mais aussi c'est qu'il y avait là une faillite morale et spirituelle profonde au milieu du peuple. Le jugement était là. Les conséquences directes à cette infidélité étaient là et elles risquaient de rester pour un moment. Voyez-vous, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux peut-être, à avoir un temps de réflexion personnelle. Nous ne sommes pas Israël, nous ne sommes pas du temps des Juifs, nous sommes du temps en Occident et nous avons la compréhension des choses, mais nous pouvons aussi réfléchir. Est-ce que ma vie est infructueuse ? Est-ce que ma vie est décevante aux yeux du Seigneur ? Le Seigneur n'a pas manqué, t'a entouré de soins, t'a entouré de sa bonté, de sa délicatesse, des soins attentifs. Il a fait ce qu'il y avait de meilleur. Mais le résultat risquerait d'être décevant si tu continues comme cela. Il y a peut-être à réfléchir, se repositionner et de se confier dans les mains du Seigneur. Seigneur, fais en sorte que je ne sois pas ou je ne sois plus décevant, que je ne sois pas, je ne sois plus infructueux dans ton plan, que je ne sois pas laissé à l'abandon. Fais grâce au milieu de nous. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Un autre texte qui nous parle toujours du plan de Dieu au milieu de tout cela. C'est un texte d'Ésaïe 11, versets 1 à 5. Je vais vous le citer maintenant. Voilà. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence et ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Pardon. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on a engraissé seront ensemble et le petit enfant, les conduira. Amen. À noter dans cette autre étape, dans cet autre texte, que nous avons une promesse de Dieu. Promesse qui s'est déjà réalisée, parce que Ésaïe l'annonçait, mais maintenant nous pouvons la comprendre dans la venue de Jésus. Hein ? On est d'accord ? Donc c'est le rejeton qui sort d'une terre desséchée, ou le rejeton qui sort de la souche. On pourrait dire de ce qui a été abattu, qui a été coupé, c'est quelque part la promesse que Dieu fait entendre. Et avant même, l'autre texte qu'on verra tout à l'heure, c'est après le jugement qui est annoncé, le jugement qui est évident parmi le peuple, les captifs, la déportation, etc., la nécessité de revenir, mais c'est qu'en fait, à ce moment-là, l'espoir, il n'est pas perdu. Après le constat de la vigne qui a failli, Dieu annonce qu'il a résolu un plan qui est son plan. Le plan de pouvoir faire et de rétablir les choses comme lui l'entendait, comme lui le désire. Nous savons que notre Dieu n'est pas limité dans les soins qu'il est capable de donner. Vous vous souvenez bien, sur Ésaïe 5, il nous montre bien ce qu'il est capable de faire. Il nous montre que lorsque il est résolu à quelque chose, il va le faire et jusqu'au bout. Merci Seigneur, alléluia. Et c'est bon pour nous de le connaître. Mais nous comprenons que le Seigneur est de cette vigne qui représentant le royaume de David, sa génération. Et Jésus a été issu de la génération de la dynastie, on pourrait dire, issu d'Isaïe. Et il vient pour accomplir les promesses. Il a été coupé, on sait comment ça a fini pour David. Hein. Il a laissé la main à Salomon. Salomon a reçu la sagesse de Dieu. Il a fini par tout mener à la fin. La fin de sa vie n'est pas du tout le début. Donc si avec la sagesse que Dieu peut nous donner, on ne veille pas, on ne prie pas, on ne fait pas garde à nous-mêmes, alors c'est sûr, ça peut très mal finir. Donc nous comprenons que Dieu a confié à David, à Salomon, et puis derrière, c'est la décatombe. Derrière, c'est une décatombe où son fils, qui se croyait quelqu'un, et n'est rien, et il ne fait que de faire une grande misère en Israël. Et il y a scission à ce moment-là, et ça devient vraiment, vraiment compliqué. Et puis au fond, d'un point de vue des générations, point de vue des hommes, il y a un chaos qui est là, mais au milieu de tout cela, Dieu, il a son plan. C'est quand même beau ça, de voir que Dieu, il est celui qui fait promesse. Il y a le constat qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a la promesse, la prophétie, la venue de Jésus. Et il le dit bien qu'en fait, il y a ce rameau sortira du tronc d'Isaïe. Ça laissait à penser qu'il y aurait une revanche d'une certaine manière, une volonté nouvelle, un désir de se révéler, de faire grâce. Un rejeton naîtra de ses racines. Et puis la particularité qu'il y aura, sur celui qui en sortira, il aura l'Esprit de Dieu avec une mesure exceptionnelle, merveilleuse, digne de louange. Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Waouh, c'est merveilleux de pouvoir voir ce que le Seigneur nous donne à réaliser encore ce matin. Dieu même si nous pouvons malheureusement être résolus au mal et parfois être bien loin et d'avoir une attitude décevante, ça n'empêche pas à Dieu de préparer une issue de secours. Ça ne veut pas dire qu'il nous la donne comme cela, n'importe comment. Elle peut se prendre et se saisir par le moyen de la foi et de la repentance, et de croire à la bonne nouvelle qui nous est offerte en Jésus. Il y a des choses, on ne peut pas changer notre caractère, on ne peut pas changer soi-même, on ne peut pas changer nos actes passés, on ne peut pas soulager notre conscience à nous-mêmes. On peut essayer de faire des œuvres, essayer de paraître ou essayer de faire des choses pour s'en dédouaner, s'en déculpabiliser. Eh bien, ça ne changera rien. Ça ne peut rien faire. Mais on sait que la solution est donnée par Dieu. Et le rejeton va arriver. Et Isaïe, c'est le père du roi David. Hein. Et de là, c'était anéanti. Quand on voit tout ce qu'il y avait, Roboam, tous les objets d'or, etc., qui seront emmenés, dévastés. Le temple de Salomon, vous vous rendez compte ? Il va être ruiné, plus rien, les choses vont partir, et tous les objets d'or, etc., on voit que vraiment tout est saccagé. Mais le Seigneur prévoit la venue de Jésus. Ce rejeton, ce rameau, c'est eh bien, ce qui nous ramène à considérer la venue de Jésus. C'est le choix du Père. C'est en fait annoncer là le Messie attendu. Celui qui sera oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, c'est vrai, celui qui vient pour faire son œuvre, celui qui n'en a pas fini, celui qui est revêtu du Saint-Esprit pour en exercer ses variantes et ses composantes de la vie avec sa richesse, mais aussi sa sagesse, son intelligence, son conseil, sa force, sa connaissance, la crainte de l'Éternel, autant de choses qui nous amènent à être émerveillés devant celui qui fait ce tout, devant celui qui vient pour accomplir cette dimension que nous ne pouvons pas définir ou être par nous-mêmes. C'est merveilleux de voir aussi qu'il est annoncé, mais en fait avec tellement de qualité divine et sa mission, ne pas juger sur un oui-dire, mais sera le défenseur des pauvres, ni plus ni moins ce que Jésus a fait. Quand vous lisez les évangiles, c'est vrai, hein? Tout ce que Jésus a pu faire et accomplir, la venue de Jésus qui vient pour restaurer ce qui est abîmé par le péché. Lorsqu'on réalise et quand on arrive, on fait le constat, on se confie dans la grâce de Dieu, et puis qu'on le laisse en fait prendre sa place. Alors ça démarre de peu parce que c'est une petite pousse, un rejeton. Imaginez, vous avez rabattu un arbre et puis vous arrivez au printemps, il y a des petites pousses et elles ressortent de partout. Hein, et là, ce rejeton, c'est celui qui est envoyé, c'est celui qui va devoir prendre de la place, qui va grandir. C'est celui qui va produire du fruit et le fruit va en être reporté dans tout le monde entier. C'est bien ça la venue de Jésus, n'est-ce pas ? C'est bien ça son œuvre encore au jour d'aujourd'hui. La parole nous démontre que tout commence ou tout recommence avec Jésus. Amen. C'est seul lui et lui seul. Ou peut-être au travers de faibles commencements. Mais il va pousser, il va prendre sa place. Et il doit être souvent accueilli et cette éclosion doit être préservée de façon à ce qu'il prenne sa place, cette priorité, cette exclusivité, pour que lui vienne apparaître et que Christ soit formé, comme on le disait récemment, que Christ soit formé en vous. La promesse. Alléluia. Alors je vous invite à peut-être à fermer les yeux, je vous avais dit, hein, trois textes, trois étapes. Une étape peut-être à réaliser dans nos cœurs, les yeux peut-être fermés, à réaliser, Seigneur, il y a une étape, c'est l'étape des commencements, des recommencements que tu peux offrir. C'est la promesse, c'est les possibilités que Dieu met devant toi. Si tu es honnête avec toi-même, s'il y a le constat, s'il y a cette dépendance de Dieu, il y a aussi maintenant une évidence, c'est la promesse. la promesse d'un sauveur, la promesse d'un Seigneur, la promesse de Jésus annoncé, qui est celui qui vient pour rétablir ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Il ne faut pas persister dans le mal, ne pas persister dans le péché. Choisis ou rapproche-toi à nouveau de celui qui en est la promesse, celui qui vient pour pouvoir faire grâce, celui qui te tend la main, celui qui veut aussi être un modèle, un appui, une référence pour te permettre d'avancer facilement et aisément avec son appui et sa sécurité. Alléluia. Seigneur, viens faire grâce que tes promesses s'ouvrent à nos yeux. Viens nous aider devant les textes de ta parole à pouvoir réaliser que tu es cette promesse évidente, tu es ce tout pour tout à chacun, Seigneur. Merci de remplir de ta présence. Oui, que de ton esprit nous soit donné, Seigneur, que de ta force nous soit communiquée, Seigneur. Merci, merci que tu prennes ta place toujours. Oui, dans l'Église, tu en es la tête, tu en es le chef, tu es la tête, nous sommes le corps et nous voulons vraiment que ta promesse puisse rassurer, apaiser nos cœurs parfois. Oui, Seigneur, merci d'être là. Merci de te rappeler à chacun. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Quand je vous parle de la vigne de l'Éternel, il y a un autre texte, tout au moins aussi une autre étape, parce que vous savez que tout se ponctue avec des années dans l'histoire d'Israël. Et puis au fond, nous sommes un peu dans l'entre-deux. Hein. L'ère de l'Église est là entre deux, où Jésus est venu. Jésus a donné sa vie, il est mort à la croix, il est ressuscité, il est monté à la droite de Dieu, l'ascension, il a répandu le Saint-Esprit. Et puis au fond, nous sommes les nations qui ont cette part, ce privilège, mais qui, au fond, nous ne pouvons pas affranchir l'histoire d'Israël. Israël devra à un moment donné reconnaître celui qu'ils ont percé, devront aussi avoir un temps de prise de conscience. Ils auront leur retour à eux-mêmes, un retour en leur temps. Il y a eu un retour physique où des personnes sont revenues et reviennent au travers de l'histoire en Terre Sainte, mais ils ont besoin aussi d'être restaurés. C'est une autre étape et c'est l'autre texte que je voulais vous lire, parce que c'est le texte d'Ésaïe 27. Hein, Ésaïe 27, je vous cite. En ce jour-là, donc quand tout sera établi dans les temps de Dieu, en ce temps-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on me prenne pour refuge. Qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons et il remplira le monde de ses fruits. Amen. Alléluia. C'est toujours beau à considérer ces textes où le Seigneur établit bien dans son plan. Je ne sais pas nous comment on réagit, vous savez, quand on nous fait du tort, du mal, quand on est fâché. Allez, imaginez, vous êtes fâché. Ça vous arrive d'être fâché? Hein, on vous a fait du tort, et puis vous êtes fâché, on pourrait dire, à en mourir. C'est pénible cette affaire, ça vous colle à la peau. On risquerait d'agir en fait dans la conséquence de ce qu'on vit et ce qu'on ressent. Mais là on voit Dieu qui se repositionne. C'est étonnant. Mais Dieu s'est bien repositionné quand la venue de Jésus est venue. Jésus est mort à la croix, il a dit « tout est accompli ». Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et vous savez, ce « Père, pardonne-leur », ce n'est pas seulement que les bourreaux, les Romains qui l'avaient crucifié, mais ça va tellement loin, la dimension de ce pardon que Jésus offre par le sacrifice et l'offrande de sa vie. Dieu restaure sa vigne, il est capable de restaurer son peuple. Il y a des temps à venir où Israël pourra revenir en son temps. Et Dieu offre là une vue sur l'avenir, ce qu'il prévoit. Et le cantique, nous avons vu tout à l'heure, le malheureux cantique qui était chanté au départ et qui n'allait pas en fait. Hein. Le cantique, on pourrait dire, là il est inversé dans le sens où c'est plus un chant de lamentation, où parfois on a beau répéter, on n'y arrive pas, hein, c'est plus un chant de lamentation, mais c'est un chant de célébration pour une vigne qui est restaurée et qui devient utile, fertile, on pourrait même dire, dans les mains de Dieu. Hein, c'est Dieu en est le gardien. Le ton, il a changé radicalement. Et plus celui qui abandonne sa vigne, mais la garde et il l'arrose constamment. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant. Nous notons aussi qu'il y a le péché de Jacob, hein, qui sera expié. La restauration passe inévitablement par le pardon des péchés. Christ a-t-il pardonné tes péchés ? C'est une évidence. Si le pardon n'est pas là, on peut essayer colmater, de faire ce qu'on veut. Il n'y a pas une vie nouvelle. Elle commence lorsque Christ devient celui qui nous donne ce pardon, cette vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. La promesse, elle dépasse vraiment nos frontières. L'étendue de l'œuvre de Dieu en Jésus, elle va loin, elle va jusqu'aux confins de la terre, elle va au plus loin. Et l'Évangile arrive à atteindre encore des dialectes. Les Saintes Écritures sont parfois traduites, sont amenées dans des dialectes particuliers. La parole galope, on pourrait dire, elle court encore et s'accomplit d'une manière encore évidente. L'instrument, l'outil de la parole de Dieu, c'est vrai, celui qu'on lit, hein, que les peuples peuvent lire, mais il y a aussi les temps dans lesquels Dieu compose et il travaille. Nous avons là ce que Jésus fait, c'est, on pourrait dire, une étendue, une œuvre, une vision missionnaire, une étendue au-delà de nos limites. Le fruit, il nous a dit, remplira le monde de ses fruits. Israël poussera des fleurs et des rejetons. Alléluia. Voyons que il y a la vigne, elle produit des petites fleurs au départ, des petites fleurs qui restent pas longtemps, puis après il y a le raisin qui se forme. Donc il y a là cette image qui est peut-être anodine pour vous, parce que les fleurs sur un pied de vigne, c'est pas long. Hein. Mais si Dieu parle de fleurs, c'est aussi pour évoquer l'épanouissement. Amen. L'épanouissement de la vie chrétienne. Ça prend son essor, ça prend son développement, et c'est toujours beau de le réaliser. Le Seigneur est capable d'atteindre ici comme au loin, ici comme très loin, ou ceux qui sont partis très très loin. Le Seigneur est capable par toute la terre d'accomplir son œuvre. Alors, si le plan qu'il chérissait au départ pouvait évoquer vraiment Israël, le peuple juif, on voit là que là, la mesure, elle est encore plus étendue. Dieu aime au-delà même de ceux qu'on aime. Dieu aime ceux qu'on n'aime pas, disons-le. Hein. Mais Dieu aime toute créature. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il offre ce salut, cette proximité à toute créature. Merci Seigneur. Alors c'est pour finir, j'aimerais aussi vous dire que la vigne de l'Éternel, si vous regardez les textes comme nous avons vu ce matin, ces trois étapes, ces éléments qui sont les nôtres, il faut aussi prendre le texte de Jean 15. Et je suis toujours émerveillé devant ce texte-là, parce que c'est un texte direct, profond, qui se retrouve dans l'évangile de Jean, le disciple de l'amour. Et puis, il faut situer que Jésus est au soir de sa vie quand même. Et il parle de cela à ses disciples avant de partir, de devoir mourir, de donner sa vie. Il dit tout de suite que, en fait, il est celui qui donne la vie au monde. Il est celui qui est venu lui-même pour donner la vie. Alors reprenons ce texte de Jean 15. Voilà, verset 1er. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, le retranche. et tout sarment qui porte du fruit l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Amen. Il y aurait de quoi de lire encore, mais nous le comprenons qu'en fait, Jésus dit bien « Je suis le vrai cep ». C'est ce lien très fort. C'est pas seulement la vigne isolément où à elle-même elle ne produisait rien de bon, le constat n'était que mauvais, vous souvenez. Donc là, maintenant, il est le cep, c'est le pied de vigne. Et les branches qui en sont les sarments portent le fruit. Donc tout tient et ne revient qu'à lui. C'est lui qui nous dit, sans lui, on peut rien faire. On ne peut pas chercher du résultat sans avoir le pied de vigne. J'ai jamais vu peut-être un grain de raisin qui n'était à peine formé, mûrir et être un fruit comestible s'il était détaché du pied de vigne. On le sait bien. Ça serait des pommes, on dirait, il ne nous reste plus que les pépins. Mais nous comprenons que le Seigneur nous donne de comprendre que c'est lui le lien et qui donne du lien et qui nous donne de vivre, comme lui-même n'avait-il pas dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. » Amen. Donc c'est vrai. Merci Seigneur pour ce qu'il est capable de faire, sa mort, la croix, l'accomplissement, la réalisation de son œuvre par amour pour nous, nous montre aussi tout ce que le Père a pu faire, ce qu'il chérissait, comment Jésus a pu venir, de la manière qu'il s'y est pris. Ça nous présente vraiment son œuvre, l'ancienne vigne. Israël, en tant que nation, n'a pas réussi, n'a pas saisi vraiment ce à quoi Dieu les destinait. Jésus lui-même est venu pour donner la vie. Jésus s'est donné par amour, ça veut dire qu'il a accepté de livrer sa vie. Et les croyants sont les sarments et nous pouvons être en bonne santé spirituelle, c'est lorsqu'on dépend de Jésus. Si on ne demeure pas dans sa parole, dans sa présence, dans sa maison, dans sa volonté, il y a un résultat qui ne sera pas celui escompté, celui attendu du Seigneur. Ça sera un résultat qui sera à notre guise, mais nous avons en Jésus la possibilité de demeurer en lui et lui, il dit « Je demeurerai en vous ». Amen. Le Père est toujours le vigneron. Vous voyez que son œuvre, elle continue. Mais il est aussi celui qui émonde, qui purifie, le sarment qui porte du fruit pour qu'il l'emporte encore davantage. C'est merveilleux, c'est un processus, on pourrait dire, et ça illustre bien la sanctification dans le cheminement où nous pouvons vivre. Dans cette vie avec Jésus, il faut qu'il y ait l'intervention de Dieu qui nous aide à en saisir vraiment ce qui est bénéfique, en fait, ce qui produira selon son regard et sa volonté. Alléluia. Donc le but reste le même, porter du fruit. Mais l'œuvre, elle se fait par la personne de Jésus. C'est plus la vigne elle-même, mais c'est par la personne de Jésus. Rappelez-vous ce que Paul a dit aux Éphésiens. Dans Éphésiens 2, verset 8, il dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Amen. » Alors, on ne peut pas finir toute cette histoire sans rappeler que Jésus avait évoqué une parabole, la parabole des vignerons. Parce que là, ça vous donne aussi de comprendre un peu le mystère, vous donne de comprendre le plan de Dieu dans Matthieu 21, je ne vais pas le lire. Mais en fait, Jésus, lorsqu'il évoque ça, il accentue les choses pour nous montrer que c'est un drame, c'est une catastrophe. Donc cette parabole qui illustre les choses, non pas une petite histoire comme cela, mais qui illustre la réalité d'Israël à cette époque, du plan de Dieu qui malheureusement est un échec et il faut qu'il se passe quelque chose. Alors il parle du propriétaire qui a planté une vigne, Israël, l'a confié à des vignerons, les chefs religieux. Et les derniers maltraitent, tuent les serviteurs envoyés, les prophètes. Et le comble de l'horreur, c'est qu'ils tuent le propre fils du propriétaire, Jésus, lui-même. Donc le constat, il est là aussi à ce moment-là, c'est que Jésus dit « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné une nation qui en produira les fruits. » Donc la volonté de Dieu n'a pas changé. On peut dire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça n'a pas changé. Dieu désire toujours du fruit, hein, qu'il y ait des répercussions bénéfiques. Et nous savons que par l'œuvre de Jésus, par son Église, hein, par son plan, nous voyons qu'il accomplit vraiment tout son plan merveilleux. Donc des deux n'en a fait qu'un, il a renversé aussi, on pourrait dire, le mur de séparation. Et il nous a permis en Jésus d'être une nouvelle personne et de pouvoir porter aussi du fruit de son amour. Amen. Alors merci Seigneur, parce que le plan, il est là. L'Ancien Testament, par Isaïe, nous parle de Dieu, son œuvre, ce qu'il dévoile au travers de l'histoire. Et puis, en Jésus, nous avons l'accomplissement. Hein, nous avons besoin de nous attacher à lui. Et c'est encore bon pour nous de dépendre de celui qui donne la vie et en abondance. Alors, pour terminer, c'est que cette vue un peu, on pourrait dire, un peu d'ensemble, cette vue biblique, des textes qu'on parcourt échelonnés au travers du temps, nous montre qu'il y a il y avait un problème. Dieu ne rejette pas les choses ou fait pas comme si tout va bien. Quand il y a problème, il y a problème. Quand il y a des difficultés, Dieu est là pour les résoudre. Il n'est pas là pour nous abandonner. Mais nous comprenons qu'il y a un constat, il y a une nécessité de se poser, s'arrêter sur le chemin de la vie. Arrête-toi, si t'es pas encore arrêté, arrête-toi et considère ce que Dieu veut pour ton bien. Essaye pas de construire, essaye pas de t'en sortir par toi-même, par tes propres forces, par tes propres possibilités, tes moyens. Il y a bien là un problème. Jésus seul est la réponse. Alléluia. Jésus seul et la réponse, le rejeton, celui qui vient, celui sur lequel on ne met pas les regards, celui qu'on met de côté souvent, mais c'est lui qui apporte la promesse, l'accomplissement de Dieu. Alléluia. Alors oui, il offre la possibilité de, bien que nos vies servent réellement à quelque chose, que nos vies servent à porter du fruit dans son amour, dans sa présence, être utile dans notre génération, être utile dans ces derniers temps, être des instruments dans ses mains pour porter son témoignage, pour porter la bonne nouvelle, porter l'œuvre du Seigneur, celle qui est en notre possession, ce mandat de transmettre à toutes les nations la bonne nouvelle de l'Évangile, et de pouvoir voir des disciples émerger sur ce que Jésus a pu donner. Est-ce qu'il est capable encore de donner à tous ceux qui se confient en lui? Voyons que Ésaïe nous montre qu'il y avait l'échec d'Israël et le Messie devait venir. Mais maintenant, le Messie est venu et le Messie veut s'occuper de nos échecs. Merci Seigneur. Et Jésus est le seul moyen eh bien, qui nous permet d'être de ceux qui plaisent à Dieu et de ceux qui portent du fruit. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre hein, la profondeur de l'affirmation de Jésus en Jean 15 sans connaître l'arrière-plan hein, sur l'histoire d'Israël, la vigne de l'Éternel racontée par Isaïe, ce qu'il nous donne. Et puis ce qu'il avait été dit par Isaïe trouve sa pleine réalisation en Jésus en fait. Et c'est beau d'être parfois dans l'attente, mais de savoir qu'en Jésus nous avons tout. Tout ce que Dieu nous a prévu, hein, tout accomplissement est en Jésus. Tu es dans l'attente, Jésus est là pour pouvoir nous combler, nous conduire et nous bénir. Alléluia. Que Dieu nous fortifie, frères et sœurs, et que la vigne de l'Éternel nous rappelle encore eh bien, toute sa volonté à notre endroit. Amen. Seigneur, nous t'honorons ce matin. Voulons, Seigneur, dans ce parcours des textes, mais aussi ce parcours d'étapes, Nous pouvons, Seigneur, réaliser que tu as tout accompli en Jésus. Te bénissons, Seigneur, d'être là, nous donner de comprendre ta parole, Seigneur, nous donner encore de pouvoir en parler, de bien en parler, Seigneur, fais-nous grâce. Oui, Seigneur, nous réalisons qu'en toi, la vie, Seigneur, est bien loin d'être un petit peu mieux, Seigneur, la vie est meilleure en toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin, et Seigneur, de nous faire parcourir, oui, cette vue d'ensemble. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui éclaire nos yeux, nos cœurs, nos vies, nos voix, Seigneur. Oui, plais-toi de faire toute ta volonté, Seigneur. Comme tu n'as pas manqué de chérir, de faire du bien, de bien prévoir les choses, voulons pas être ignorants ou comme être, Seigneur, en marge de tout cela, mais nous voulons être dans tes mains. Et Seigneur, fortifie-nous et conduis-nous. Seigneur, que ta main soit posée sur chacun. Et Seigneur, que ton amour soit communiqué à tout à chacun. Et que ta parole, que l'accomplissement de tes promesses s'accomplisse et nous fortifie dans le beau nom et merveilleux nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.